Vous êtes bien sur la locale, 97.3 à Saint-Girons, dans l'émission La fille à la fenêtre, une émission féministe sur la littérature, où aujourd'hui, le personnage principal n'est ni une fille et ni à une fenêtre. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le 13e épisode de l'émission La fille à la fenêtre. Et aujourd'hui, la fille à la fenêtre n'est pas une fille. Aujourd'hui, l'autrice qu'on va lire est un auteur. Car aujourd'hui, on va écouter une personne qui a refusé la condition de femme qu'on lui avait assignée à la naissance. Une personne transfuge de son genre assigné, qui nous parle depuis la Russie du début du 19e siècle. On vit dans une société qui colle sur notre sexe biologique, un genre qui est supposé être naturel. Toute personne qui naît avec un utérus ou un vagin doit être une femme, avec des rôles dont les fonctions et les attributs varient selon les époques et les sociétés, mais dont la condition première est d'être exploitée. Et toute personne naissant avec un pénis doit être un homme, aussi avec des fonctions et attributs qui varient selon les époques et les sociétés, mais dont la condition première est d'être dominant. C'est ce que, depuis le XXe siècle, on appelle les genres. Les genres sont socialement construits, ils bougent selon les sociétés et les époques. Mais on veut très fort nous faire croire qu'ils ne bougent pas, qu'ils sont naturels, qu'ils sont acquis à la naissance. On parle même de théorie du genre, pour nous faire croire que les rôles sociaux attribués selon les sexes seraient une invention. Notre société occidentale a aussi déployé beaucoup d'efforts pour faire croire que les personnes dont le sexe ne correspond pas au genre sont malades. On notera que depuis le 19e siècle, la société occidentale a rendu beaucoup de monde malade. Les femmes, les dits homosexuels, etc. Et les mots hétérosexuels et homosexuels ont été inventés au 19e siècle d'ailleurs, et d'ailleurs tous deux créés d'abord pour nommer une maladie. Était qualifiée d'hétérosexuel une personne qui avait une attirance maladive pour le sexe opposé. Et ensuite, c'est devenu le mot qui a nommé la norme sexuelle. Un petit aparté. On a déployé beaucoup d'efforts pour nous faire croire qu'il n'existe que deux rôles possibles, et que si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on n'est pas normal. Certaines sociétés ouvrent des possibilités pour passer d'un genre à un autre. Mais la plupart du temps, ce sont des possibilités très restreintes socialement. Souvent, comme dans notre société actuelle, si on veut passer d'un genre à un autre, il faut être hétérosexuel, on n'a plus le droit de se reproduire, etc. Par exemple, aujourd'hui en France, pour obtenir des hormones et le droit de changer d'état civil, les personnes trans doivent passer par la psychiatrisation et la stérilisation. La société dans laquelle nous vivons nous impose d'être dans un seul genre. Mais elle nous impose aussi de choisir un genre. Elle ne veut pas que nous soyons entre les deux. Quand elle ne sait pas dans quel genre nous sommes, elle nous met dans la catégorie des monstres. Elle fait de nous des bêtes de foire. Elle veut regarder dans notre culotte. Mais souvent, elle préférerait que nous n'existions pas. Car les personnes qui niquent les genres, au fil de l'histoire, ces personnes se sont elles-mêmes nommées de différentes manières. Par exemple, en anglais, il y a les termes « queer » ou « genderfucker ». Ces personnes sont un péril pour la norme sexuelle. Norme sexuelle qu'on peut appeler hétéropatriarcat. Mais nous sommes un vivant exemple que les rôles sociaux dans lesquels on nous enferme sont une vaste blague qui sert à nous diviser pour mieux nous exploiter. Les personnes minorisées du genre existent, ont toujours existé, ont développé des stratégies d'existence et de survie selon les lieux et les époques dans lesquels ils et elles ont habité. Cette émission se veut une modeste contribution à la visibilisation de ces existences, racontée du point de vue d'une femme cisgenre, c'est-à-dire pas trans, Gwyn, blanche, d'apparence plutôt masculine. Et il m'arrive d'ailleurs souvent qu'on m'appelle monsieur et je m'en fous. En 1836, paraît en Russie un livre intitulé « La demoiselle cavalier ». Une aventure en Russie, signée du nom de Nadejda Dourova. En 1995, il est traduit en français sous le titre « Cavalière du Tsar, mémoire ». Traduit et préfacé par Paul Lequen aux éditions Viviane Ami. Vous retrouverez tout ça sur la page du podcast de l'émission. Dans ce livre, une personne assignée femme à la naissance raconte comment elle se fait passer pour un homme pour aller se battre dans l'armée du Tsar contre Napoléon entre 1806 et 1815. J'ai dit « se faire passer pour un homme ». J'aurais pu dire « se travestit » ou je pourrais dire « se travestit », je pourrais dire « devient un homme ». Je n'ai pas les mots que cette personne utilise pour elle-même. Dans son livre, Nadejda Alexandre décrit davantage ce qu'il fait qu'il ne se définit. Le fait de se définir et de s'identifier est une manière de faire récente. Je ne veux donc pas lire ce témoignage en projetant ce que Alexandre Nadejda aurait fait aujourd'hui. Les stratégies de toute personne sont intimement liées aux contraintes tissées autour d'elle par la société dans laquelle elle vit. Une société peut nous empêcher de nous identifier, si c'est une société où le concept d'individu n'existe pas. Ou alors, il peut être obligatoire de nous identifier, surtout quand on dévie de la norme, comme dans notre société actuelle. Cette société actuelle ne demande pas aux hétéros de dire qu'ils sont hétéros, mais par contre elle oblige de dire qu'on est lesbienne. Cette société actuelle ne dit pas que les blancs sont blancs, mais elle dit que les noirs sont noirs. Elle ne dit pas à cette société actuelle qu'elle est cisgenre, que son genre correspond à son sexe de naissance,
mais que les trans sont pas normaux,
etc., etc. Moi-même, je suis une femme cisgenre. Voilà comment je me situe socialement. Ce n'est pas quelque chose d'actif de ma part, c'est ce que la société me renvoie la plupart du temps. Je dis que je suis Gwyn pour me réapproprier l'insulte que la société me renvoie, et pour me situer politiquement par rapport aux lesbiennes. Si j'étais dans la nature, je ne serais qu'une personne. Et par plein d'aspects, ça serait beaucoup plus facile. Mais si j'étais dans la nature, je ne serais pas un être social, en train de vous bassiner maintenant ou de vous charmer, on peut espérer, avec mes histoires de cavaliers russes. Il n'est donc pas question de lire ce témoignage en projetant ce que Alexandre Nadejda aurait fait aujourd'hui, s'il aurait transitionné ou pas, s'il faut l'appeler trans ou travesti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il refuse absolument de vivre la vie imposée à l'époque aux femmes de sa classe, une vie enfermée, à l'intérieur, vouée au mariage. Certaines questions qui sont habituellement posées, pourquoi es-tu trans, pourquoi es-tu pédé, pourquoi es-tu gwyn, pourquoi es-tu lesbienne, ou alors comment l'es-tu devenue, sont des questions posées par la société pour renforcer les normes qui nous oppriment. Donc je tiens très fort à rappeler que selon moi, il ne convient pas de chercher les causes des choix de Nadejda Alexandre, ni de calquer des catégories de compréhension ultérieures, telles que la psychanalyse, sur la manière dont il a vécu sa vie. De la même manière, les explications qu'il donne à qui il est, comment il explique qui il est, lui appartiennent à son époque, et ne sont pas valables, en général, pour les personnes trans, ou les personnes travesties, ou les personnes qui niquent le genre, les personnes queer, les genderfuckers, les trous du cul, les enculés, etc. Sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on, and he comes to life, automatic joy, that is why I want a coin-operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long-lasting. Operated boy,
all the other real ones that I destroy. Cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone, and I'll never let him go. And I'll never be alone, 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 not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy?
Vous êtes toujours dans la PAFI à la PAFenêtre sur la locale 97.3 à Saint-Girons. Alors, je viens de faire un exposé plutôt théorique et abstrait. Et du coup, pour donner des exemples à tout ce que je vous ai raconté, je me suis dit qu'on pouvait regarder de plus près l'histoire de l'édition et de la traduction de ce livre. Donc ce livre, il a paru en Russie en 1837 sous le titre « La demoiselle Cavalier ». À l'époque, un critique littéraire célèbre, qui s'appelait Vissarion Bielinski, en a dit la chose suivante. S'il s'agit d'une mystification, avouons qu'elle est menée de main de maître. S'il s'agit de mémoires authentiques, alors ils sont d'un intérêt et d'un charme inouïs. Et quelle langue, quel style on trouve chez cette demoiselle cavalier ? Il semble que Pouchkine lui-même lui ait cédé sa plume de prosateur et qu'elle lui soit redevable de cette fermeté et cette force virile, de ce caractère pittoresque et captivant du récit, toujours empli, toujours pénétré de quelque sens caché. Par rapport à cette critique, on peut noter deux choses. Déjà, ce critique, donc Vissarion Bielinski, peine à croire qu'il s'agit d'une femme. À l'époque, les femmes n'écrivent pas, donc si on écrit, on est forcément un homme. Il croit donc que c'est Pouchkine, l'éditeur, qui est le poète russe le plus célèbre de cette époque, qui a écrit ce livre. Bah, c'est assez drôle, car effectivement, on pourra lui dire que la personne qui n'a écrit ce livre n'est pas une femme, mais ce qu'il raconte n'est pas une mystification non plus. Donc, il se plante à tous les niveaux. La deuxième chose qu'on peut noter par rapport au fameux, c'est le fameux sens caché. Donc, ce récit est toujours pénétré d'un sens caché. On reviendra sur cette idée du sens caché. Donc, en russe, ce livre s'appelle « La demoiselle cavalier ». En français, il y a deux traductions et deux titres. Alors, la première traduction, c'est celle que je vais lire après, c'est l'édition que j'ai sous la main. Le premier titre, c'est « Cavalière du Tsar ». Et c'est une traduction qui date de 1995. Et la deuxième traduction qui date de 1999, alors là, accrochez-vous bien, le titre c'est « La hussarde qui préférait les chevaux aux hommes ». Aux éditions Favre, traduction de Carole Ferré. Donc on peut déjà noter dans ce titre l'utilisation très péjorative du terme « hussarde », qui n'existe pas vraiment en tant que substantif en français. La plupart, sinon, on l'utilise majoritairement dans l'expression « à la hussarde », qui veut dire faire les choses brutalement. Bon. Ensuite, qui préférait les chevaux aux hommes ? Alors, Alexandre Nadejda aime les chevaux, hein. Absolument pas polémiquer là-dessus. Mais quel rapport avec les hommes ? En fait, dans le livre, dans tout le livre, donc dans toute cette autobiographie, l'auteur ne fait aucune mention de ses préférences sexuelles. Alors, soit c'est parce qu'il en a pas, soit parce qu'il en a et qu'elles ne sont pas avouables. On pourrait se rappeler que le livre a été publié en 1837, ou alors peut-être parce qu'il s'en fout, que c'est pas important pour lui. En tout cas, la préférence ou pas des hommes, c'est absolument pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est plutôt la vie d'un soldat. En plus, au bout de quelques pages, notre héros n'est plus un hussard. Enfin, il était chez les hussards, mais il part chez les Uhlans, qui est un autre corps de cavalerie, parce qu'il peut plus se payer l'uniforme du hussard. Donc, bon, déjà, du coup, l'appeler un hussard, c'est faux. L'appeler une hussarde, bon, laisse tomber. Après, la hussarde qui préférait les chevaux aux hommes, là, ça devient complètement délirant. Donc, mais est-ce que vous croyez que l'éditeur aurait pu choisir pour titre la hussarde qui préférait les chevaux aux femmes ? Eh bien non. Car nous vivons dans une société hétéropatriarcale, où être une femme signifie être hétérosexuel. Car quand on est Gwyn, ou quand on est trans, ou quand on est autre, on n'est plus vraiment une femme, et ça, la société nous le renvoie très fort. Donc il ne faut jamais oublier que c'est la société qui enferme les personnes minorisées dans des identités, et d'ailleurs ensuite, souvent, elle leur reproche de se comporter de façon identitaire, ou même d'être identitaire. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On peut se pencher à présent sur la question du sens caché. Oui, donc ça, on en revient toujours à cette histoire de sens caché. Donc, cette personne, Alexandre, écrit un récit où il explique qu'il est né assigné femme, qu'il se travestit et qu'il s'enfuit de sa famille pour rejoindre l'armée du tsar. Et il nous raconte sa vie de soldat avec un bout d'histoire de la Russie. Le préfacier est traducteur de la première édition française, Cavalière du tsar. Donc, il nous explique dans sa préface, je cite, que une fois démobilisé, Nadejda Durova renonce définitivement à son sexe. On note qu'il utilise un terme très négatif, qui est « renoncer ». Puis, je continue à citer, « Lorsque plus tard, elle écrit à Pouchkine, donc ce fameux poète russe célèbre du XIXe siècle qui édite son récit, elle parle d'elle-même au masculin et signe du nom d'Alexandrov. Le plus extraordinaire, je continue à citer, hein, est que son correspondant, donc Pouchkine, joue le jeu volontairement. » C'est vrai que ça aurait été peut-être moins bizarre s'il avait été forcé, enfin, qu'il joue le jeu volontairement. Bon, je continue à citer. Et s'adresse à elle en usant aussi du genre masculin, dans la langue russe, beaucoup plus différenciée encore du féminin qu'en français. Ok, donc ça veut dire que M. Paul Lequen trouve extraordinaire que Pouchkine utilise pour s'adresser à Alexandrov du prénom qu'il a choisi pour lui-même, du pronom. On pourra trouver extraordinaire plutôt que M. Paul Lequen utilise tout au long de la préface le pronom « elle » pour Alexandrov, qui n'utilise pas ce pronom pour se désigner. Donc là, effectivement, il y a une chose assez mystérieuse. La fin de la préface est aussi très instructive. On peut la lire. Donc c'est toujours Paul Le Ken qui parle en 1995 en France, après avoir traduit ce livre en français. Donc, Bielinski, c'est le critique russe de 1837 qu'on citait tout à l'heure, révélait une singulière clairvoyance en soupçonnant dans les mémoires un sens caché. Car à la lecture de cette étrange et palpitante confession, force est de s'avouer que plus ce diable de femme, je cite toujours, hein, c'est vraiment ça ce qu'il dit, se dévoile, et plus le mystère de son âme reste entier. À moins, bien sûr, que ce mystère n'ait qu'un seul nom, celui de liberté. Le préfacier et traducteur de 1995, donc, qui vit pourtant dans notre société moderne, si gay-friendly, si libérale, pro-choix, où les femmes n'auraient plus à s'en faire, où le lobby LGBT régnerait, etc., est donc parfaitement d'accord avec son homologue cis masculin de 1837. Bon, malgré sa dernière phrase fait qu'il est peut-être à deux doigts de sauver sa peau devant notre œil critique, mais pas vraiment en fait, faut pas déconner. Jusqu'au bout, il va dénier à Nadejda Alexandre la possibilité d'être autre qu'une femme. Mais il va aussi lui dénier le fait d'être une vraie femme. Ça va être un diable de femme. Et tout en continuant à dire que tout cela est caché, étrange, mystérieux, bizarre, etc. Parce que bon, ce phénomène bizarre, il faut lui trouver une explication, il faut lui trouver une raison. Alors c'est cette raison, si elle n'est pas surnaturelle, elle sera quoi? Elle sera médicale? Elle sera psychologique? Bon, on rappelle que Alexandrov nous raconte sa vie, sa campagne de Russie. C'est un livre qui a connu un très grand succès en Russie à sa publication. Alexandrov a été reçu dans tous les salons de Saint-Pétersbourg. Malheureusement, on peut le craindre, on n'a pas l'histoire de ses réceptions, mais qu'il a certainement été reçu sous le coup de la curiosité, comme un phénomène, comme une personne hors norme, etc. Car quand on est minorisé, on est toujours renvoyé à son identité. Et même s'il voulait être juste un soldat, juste une personne passionnée de chevaux, et aussi par ailleurs une personne très éloignée de nous sur plein d'aspects. Un patriote, un fan du tsar, un membre de la petite aristocratie russe, etc. Donc malgré tout ça, il reste aux yeux de ses éditeurs, de ses traducteurs, etc., une hussarde, ou alors un diable de femme, et surtout un L. Donc nous, on va essayer de ne pas l'enfermer là-dedans. Drag queen, I'm in another bracket. What you see before you is not some midnight racket. Nothing here is padded. I've paid a mighty fortune. A few things have been added. Subtractions, but I'm not a fucking drag queen. I won't let you forget it. When you say good day, sir, you stab me all the way through my tender transgender heart. You happen to be gay, you could show a little heart and understand you. Instead of twittering and whispering and pointing Judas fingers like a bunch of cunning linguists at some gender crucifixion. And if you think I'm such a freak, there's no need to cut me down and put me in my place. You just may want to take a look at why your pants are oh so wet and your knees like castanets are giving you away. I'm not a fucking drag queen. I don't wear foot-long lashes. Don't wear a pound of makeup or 17 tiaras. I don't want your $5 before the song is over.
don't want you. How's it going, man? No, 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 no. Miss Squires will do nicely. Cause I'm not a fucking drag queen. So please don't be so rude. I'll break your fucking legs, sir, and then I'll peer away while I mend my transgender heart. Can't you just say yes, dear, and she and her and sister to my tender transgender heart.
Vous êtes toujours sur la locale 97.3 à Saint-Girons, dans la PAFI, à la PAFenêtre. Donc c'était I'm Not a Fucking Drag Queen par Judy, et c'est dans la bande originale du film Better Than Chocolate. Et la chanson d'avant c'était Dresden Dolls, Coin Operated Boy. Je vais commencer la lecture, et avant ça je voudrais juste dire un truc concernant les pronoms. Donc dans tout le récit Cavalière du Tsar, Alexandre Alexandrov ou Nadejda Durova parle de lui-même au féminin, et seules les autres personnes l'adressent au masculin. Et il y a certains passages où il parle de lui au féminin en s'adressant à d'autres personnes. Vous avez pu voir que moi j'ai choisi, après avoir pas mal réfléchi et hésité, de parler de lui au masculin, parce que dans la préface, le préfacier explique que quand il écrit à Pouchkine, il parle en disant il, enfin en parlant de lui-même au masculin, et que Pouchkine lui répond au masculin. Bon, le truc, c'est que moi-même, je suis pas russophone et que je peux pas vérifier. Donc, je tiens quand même à être prudente. À la fois, bon, j'ai choisi de l'adresser au masculin, j'ai l'impression que je me plante pas trop en faisant ça, mais d'un autre côté, il est possible que le traducteur qui dit pas mal de conneries, comme on a pu voir dans sa préface, manifestement, il a pas du tout réfléchi au caractère construit de l'identité de genre. Donc, il est possible qu'il ait féminisé soit tout le temps, soit à des moments, Alexandrov dans sa traduction. Ou alors, il est aussi possible que Alexandrov ait soit fait le choix parce que c'était plus simple, ou ait été obligé de se féminiser lui-même pour être publié. Bon, du coup, même si on ne sait pas exactement ce qu'il en est et qu'on le saura peut-être jamais, je préférais dire ça, et que donc cette personne va parler d'elle au féminin, mais c'est quand même important de garder en tête lors de la lecture que quand il écrit des lettres plus tard, quand il est plus âgé et tout ça, il parle de lui-même au masculin, et qu'en fait il a continué à vivre en homme tout le reste de sa vie. Mes années d'enfance. Ma mère, née Alexandrovitcheva, était une des plus belles filles de Petite-Russie. À la fin de sa 15e année, les prétendants se présentaient en foule pour rechercher sa main. Parmi toute leur multitude, le cœur de ma mère donnait la préférence à un capitaine de hussards nommé Dourov. Mais, par malheur, ce choix n'était point celui de son père, Obereau Petit-Russien, orgueilleux et dévoré d'ambition. Il commanda à ma mère qu'elle sautât de l'esprit l'idée chimérique d'épouser un moscal, c'est un terme méprisant par lequel les Ukrainiens désignaient les fonctionnaires et les militaires russes, et singulièrement un militaire. Mon grand-père régnait en despote absolu sur sa famille. Lorsqu'il donnait un ordre, il convenait de s'y soumettre aveuglément, et il n'existait nul moyen ni de le fléchir, ni de changer une disposition dès lors qu'il l'avait prise. La conséquence de cette sévérité immodérée fut que par une nuit d'automne où la tempête faisait rage, ma mère, qui partageait une chambre avec l'aînée de ses sœurs, quitta son lit en catimini, s'habilla, se couvrit d'un manteau et d'un béguin, puis, retenant son souffle, sans s'être chaussée, se faufila devant le lit de sa sœur, ouvrit sans bruit la porte de la grande salle, la referma avec autant de soin, traversa lestement la pièce d'une seule course et, franchissant la porte du jardin, fila comme une flèche sur la longue allée plantée de marronniers qui aboutissait à une poterne. Ma mère tira précipitamment cette modeste barrière et se jeta dans les bras du capitaine qui l'attendait avec une calèche et un attelage de 4 chevaux vigoureux, lesquels, comme le vent qui alors se déchaînait, s'envolèrent sur la route de Kiev en les emportant. Ils se marièrent dans le premier village de rencontre, puis s'en furent tout droit à Kiev, où le régiment du capitaine Dourov avait ses quartiers. La conduite de ma mère, bien qu'elle pût trouver excuse dans la jeunesse, dans l'amour et dans les qualités de mon père, qui était un fort bel homme, au tempérament doux et aux manières séduisantes, était si contraire aux mœurs patriarcales de Petite Russie que mon grand-père, dans un premier accès de colère, jeta sa malédiction sur sa fille. 2 années durant, ma mère ne cessa d'écrire à son père pour le supplier et obtenir son pardon, mais en vain. Il ne voulait rien entendre et sa colère grandissait à mesure qu'on s'efforçait de l'attendrir. Mes parents, ayant perdu tout espoir de fléchir un homme qui tenait l'obstination pour un trait de tempérament, allaient se résigner à leur sort et cesser d'écrire à ce père inflexible, quand la grossesse de ma mère vint ranimer ce courage éteint. Elle se prit à espérer que la naissance de l'enfant la ferait rentrer dans les grâces paternelles. Ma mère souhaitait passionnément avoir un fils, et durant tout le temps de sa grossesse, elle s'abandonna aux rêves les plus flatteurs. « J'aurai un fils, beau comme un amour, se disait-elle, je l'appellerai Modeste. C'est moi qui le nourrirai, c'est moi qui l'élèverai et lui ferai la classe, et mon fils, mon Modeste adoré, sera la joie et la consolation de toute ma vie. » Ainsi rêvait ma mère, mais le terme approchait et les douleurs qui précédèrent ma naissance la surprirent de la plus déplaisante manière. Elle n'avait point de place dans ses rêveries et elles produisirent sur elle une première impression très peu avantageuse pour moi. On dut faire venir un médecin accoucheur qui jugea indispensable de la saigner. Ma mère en était très effrayée, mais il n'y avait rien à faire et force lui fut de se soumettre à la nécessité. On la saigna et bientôt après, je vins au monde, pauvre créature dont la naissance détruisait tous ses rêves et renversait toutes ses espérances. « Donnez-moi mon enfant !» demanda ma mère, sitôt qu'elle fut un peu remise de la douleur et de la peur. On apporta l'enfant et on le plaça sur ses genoux. Mais, hélas, ce n'était point un fils beau comme en amour. C'était une fille, et une fille taillée en géant. J'étais d'une taille extraordinaire, j'avais d'épais cheveux noirs et je criais à gorge déployée. Ma mère me repoussa et se tourna vers le mur. Après quelques jours, maman fut tout à fait rétablie et, cédant au conseil des dames du régiment, ses amies, décida de m'allaiter elle-même. Elle lui avait affirmé qu'une mère qui allait son enfant commence à l'aimer par ce moyen. On m'apporta, ma mère me prit des mains de la servante, me plaça contre son sein et me donna à téter. Mais apparemment, je devais sentir que ce n'était point l'amour maternel qui me donnait pitance et, en dépit de tous ses efforts pour me faire prendre le sein, je ne le prenais pas. Maman pensa vaincre mon entêtement en usant de patience et persista à me tenir contre elle. Mais lasse de me voir m'y refuser si longtemps, elle cessa de me regarder et se mit à converser avec une dame qui était chez elle en visite. À cet instant, sans doute gouvernée par le sort qui me destinait à l'uniforme de soldat, je m'emparai brusquement du sein maternel et, de toutes mes forces, le mordis de mes gencives. Ma mère poussa un cri perçant, m'arracha à son sein, et m'ayant jeté dans les bras de la servante, tomba sur son lit, le nez dans les coussins. Ôtez de ma vue cet enfant impossible et ne me le montrez jamais plus, dit ma mère en agitant le bras et en se couvrant la tête d'un oreiller. Je venais d'avoir 4 mois quand le régiment dans lequel servait mon père reçut l'ordre de gagner Kherson. Comme il s'agissait d'un mouvement de troupes régulier, mon père emmena sa famille avec lui. Je fus confié aux soins et à la garde d'une femme de chambre de ma mère, du même âge qu'elle. Pendant la journée, cette fille voyageait avec maman dans la voiture en me tenant sur ses genoux, me nourrissait de lait au moyen d'une corne de vache et m'emmaillotait si serré que j'en avais le visage bleu et les yeux injectés de sang. À l'étape du soir, je retrouvais mon souffle car on me confiait à une paysanne qu'on faisait venir du village. Elle me démaillotait, me plaçait contre son sein et dormait avec moi toute la nuit. J'avais ainsi une nouvelle nourrice à chaque étape. Ni les changements de nourrice, ni le supplice de l'emmaillotage n'entamaient ma santé. J'étais très vive et robuste, mais braillarde à un point qu'on ne saurait croire. Un jour, ma mère se trouvait de fort méchante humeur, je ne l'avais pas laissée dormir de toute la nuit, on s'était mis en marche à l'aube, et maman s'apprêtait à s'endormir dans la voiture quand je me mis à nouveau à pleurer, et malgré tous les efforts de ma nourrice pour me consoler. Je hurlais d'heure en heure davantage. ceci passa les bornes de la patience de ma mère. Hors d'elle, elle m'arracha des bras de la fille et me jeta par la fenêtre. Les hussards poussèrent un cri d'effroi, sautèrent de cheval et me relevèrent tout en sang et ne donnant aucun signe de vie. Ils allaient me rapporter à la voiture quand mon père accourut à eux au galop, me prit de leurs mains et, en larmes, me posa en selle contre lui. Il tremblait, pleurait et était pâle comme un mort. Il continua de chevaucher sans prononcer un mot et sans tourner une fois la tête du côté de la voiture dans laquelle voyageait ma mère. À la stupéfaction de tous, je revins à la vie et, contre toute attente, ne fus point estropié. Seul du sang me coulait de la bouche et du nez sous la violence du choc. Mon père leva les yeux au ciel avec un sentiment de joie et de reconnaissance, me serra contre sa poitrine et, s'approchant de la voiture, dit à ma mère « Remercie Dieu de n'être pas meurtrière. Notre fille est sauve, mais je ne la livrerai plus à ton pouvoir, je m'occuperai d'elle moi-même. » Note de lectrice, peut-être il aurait dû le faire avant, si, au lieu de reprocher à la mère de devoir être une mère, mais bon. Sur ces mots, il poussa son cheval et jusqu'au coucher me transporta avec lui sans plus adresser un regard ni une parole à sa femme. À partir de ce jour mémorable, mon père me confia à la providence divine et à l'attention d'un hussard du flanc garde nommé Astakov, qui se trouvait en permanence au service de mon père, aussi bien en campagne que dans les quartiers. Certes, je passais la nuit dans la chambre de ma mère, mais dès que mon père se levait et sortait, on m'emportait aussitôt. Mon précepteur, Astakov, me promenait toute la journée dans ses bras, se rendait avec moi à l'écurie de l'escadron, me faisait asseoir sur les chevaux, me donnait son pistolet en guise de jouet et agitait son sabre, tandis que je battais des mains et riais aux éclats à la vue des pluies d'étincelles et des reflets d'acier. Le soir, il m'emmenait voir les musiciens qui, avant de sonner la retraite, jouaient différents morceaux. J'écoutais, puis finalement, m'endormais. On ne pouvait me ramener dans ma chambre que lorsque j'étais plongé dans le sommeil. Quand je ne dormais pas, la seule vue de la chambre de ma mère me glaçait d'effroi et je m'agrippais des deux mains au cou d'Astakov. Maman, depuis le jour de mon voyage aérien par la fenêtre de la voiture, n'intervenait plus dans rien qui me concerna et se consolait avec son autre fille, qui était cette fois-ci tout le portrait d'un amour et pour laquelle, comme on dit, elle ne se sentait plus d'affection. Bientôt, après ma naissance, mon grand-père accorda son pardon à ma mère et ceci de la manière la plus solennelle du monde. Il se rendit à Kiev, demanda à l'évêque de le délier du serment irréfléchi par lequel il avait juré de ne jamais pardonner à sa fille, puis, ceci accompli, écrivit à ma mère qu'il lui pardonnait et bénissait son mariage, ainsi que l'enfant qui en était né. Il la priait de lui venir rendre visite, autant pour recevoir en personne la bénédiction de son père que pour toucher sa part de dot. Ma mère n'eut pas le loisir d'user de cette invitation avant le jour où mon père dut prendre sa retraite. J'avais 4 ans et demi quand il se vit contraint de quitter le service. Son logis, outre mon petit lit, contenait encore 2 berceaux. Avec une telle famille, la vie militaire devenait impossible. Il se rendit à Moscou pour obtenir un poste dans la carrière civile, tandis que ma mère partait avec moi et ses 2 autres enfants chez son père, où elle devait vivre jusqu'au retour de son mari. Une fois qu'elle m'eut prise des bras d'Astakov, ma mère ne connut plus un instant de repos ni de joie. Je la fâchais chaque jour par mes inventions extravagantes et mes ardeurs guerrières. Je connaissais par cœur tous les termes du commandement, j'aimais les chevaux à la folie, et quand ma mère voulait m'obliger à tricoter, je réclamais avec force l'arme qu'elle me donna un pistolet, comme je disais, à faire claquer. En un mot, j'avais profité on ne peut mieux de l'éducation dispensée par Astakov. Chaque jour qui passait voyait mes inclinations martiales se renforcer davantage, et chaque jour ma mère m'aimait un peu moins. Je n'oubliais rien de ce que j'avais si bien appris, à force d'être constamment en compagnie de hussards. Je courais et galopais dans la chambre en tous sens, et je criais à plein poumon « Escadron, droite, garde à vous, en avant, marche !» Mes tantes riaient aux éclats, mais maman, que tout ceci jetait au désespoir, ne connaissait plus de bornes à son exaspération. Elle me prenait avec elle dans sa chambre, me mettait au coin, et m'abreuvait assez d'injures et de menaces pour me faire pleurer amèrement. Mon père reçut un poste de gouverneur dans un chef-lieu de district et partit là-bas avec toute sa famille. Ma mère, qui me détestait de tout son cœur, semblait faire à dessein tout ce qui pouvait renforcer et affermir la passion, déjà invincible, que je nourrissais pour la liberté et la vie militaire. Elle m'interdisait de me promener dans le jardin et ne me permettait point de la quitter, ne fût-ce qu'une demi-heure. Je devais, la journée entière, rester assise, dans sa chambre, à faire de la dentelle. Elle m'enseignait elle-même à coudre et à tricoter, et voyant que je ne montrais ni goût ni talent particulier à ces sortes d'occupations, que tout entre mes doigts se trouvait déchiré ou brisé, elle entrait en fureur, s'emportait et me frappait très douloureusement les mains. J'entrais dans ma 11e année. Maman avait souvent l'imprudence de dire devant moi à mon père qu'elle n'était point de force à venir à bout de l'élève d'Astakov, que cette éducation de hussard avait poussé en moi des racines profondes, que le feu de mes yeux l'effrayait et qu'elle eût souhaité plutôt me voir morte qu'affligée de telles inclinations. Mon père répondait que j'étais encore une enfant, qu'il n'était point besoin de me distinguer des autres, qu'avec les ans je prendrais d'autres penchants et que tout s'arrangerait tout seul. « Ne prête pas tant d'importance à ces enfantillages, mon ami, » disait mon père. Le destin fut aise que ma mère ne crût ni ne suivit l'excellent conseil de son mari. Elle continuait de me tenir enfermée et de ne me permettre aucune des joies que réclamait mon âge. Je me taisais et me résignais, mais la suggestion mûrissait mon esprit. Je pris la ferme résolution de secouer le joug oppresseur et, comme une adulte, me mis à échafauder des plans pour y parvenir. Je décidai d'employer tous les moyens pour apprendre à monter parfaitement à cheval, à tirer au fusil, puis de me travestir et de m'enfuir de la maison paternelle. Pour commencer de mettre en branle la révolution que je machinais à mon profit, je ne manquais aucune bonne raison de me dérober à la surveillance de ma mère. Ces occasions se présentaient chaque fois que des gens venaient la visiter. Elle s'affairait auprès d'eux, tandis que moi, ne me sentant plus de joie, je courais au jardin retrouver mon arsenal, un coin sombre, derrière un buisson, où j'entreposais des flèches, un arc, un sabre et un fusil hors d'état. J'oubliais la terre entière, tout absorbée que j'étais par mes armes, et seul le cri perçant des filles qui me cherchaient me faisait courir à leur rencontre, le cœur serré de crainte. 2 années passèrent de la sorte, et j'eus bientôt 12 ans. À cette époque, mon père acheta pour son usage personnel un cheval de selle, un étalon de Tcherkesse, presque indomptable. Étant excellent cavalier, mon père dressa lui-même ce magnifique animal et lui donna le nom d'Alkide. Dès lors, tous mes plans, tous mes desseins et mes vœux se concentrèrent sur ce cheval. Je résolus de tout mettre en œuvre pour l'apprivoiser, et j'y réussis. Je lui donnai du pain, du sucre, du sel. Je dérobais de l'avoine au cocher et j'en remplissais sa mangeoire. Je le caressais, le flattais, lui parlais comme s'il eût pu me comprendre, et pour finir, j'obtins que cette bête inabordable me suivît comme un doux agneau. Presque chaque jour, je me levais à l'aube, me glissais à pas de loup hors de la chambre et courais à l'écurie. Alkide m'accueillait par un hennissement. Je lui donnais du pain, du sucre, puis je le faisais sortir dans la cour. Ensuite, je le conduisais au perron et du haut des marches, je grimpais sur son dos. Ses mouvements vifs, ses écarts, ses ébrouements ne m'effrayaient en aucune façon. Je m'agrippais à sa crinière et lui permettais de galoper avec moi sur toute l'étendue de la grande cour, sans crainte d'être emporté au-delà du portail, car celui-ci était encore fermé. Il arriva qu'une fois ce jeu fut interrompu par l'arrivée du valet d'écurie, qui, poussant un cri de peur et d'étonnement, courut pour retenir Alkide, qui galopait avec moi sur son dos. Mais l'animal se mit à tourner la tête en tous sens, se cabra et s'élança dans la cour, en donnant force bond et ruade. Pour mon bonheur, Éphime fut si glacé d'effroi qu'il en perdit l'usage de la parole, sans quoi son cri eût donné l'alarme à toute la maison et entraîné pour moi une cruelle punition. J'apaisai facilement Alkide en le cajolant de la voix, en le flattant et en le caressant de la main. Il se mit au pas et lorsque j'enlaçai son cou et me penchai sur son museau, il s'immobilisa sur le champ, car c'était là la manière dont j'usais toujours pour descendre de son dos, ou plus exactement, pour me laisser glisser à terre. Éphime voulut alors le prendre, en grommelant entre ses dents qu'il le dirait à ma mère, mais je lui promis de lui donner tout mon argent de poche s'il renonçait à rien dire à personne et me permettait de ramener moi-même Alkide à l'écurie. Devant cette promesse, le visage d'Éphime s'épanouit. Il esquissa un sourire, se lissa la barbe et dit « Eh bien, faites, puisque ce fripon vous obéit mieux qu'à moi. » Triomphante, je reconduisis Alkide à l'écurie et grand fut l'étonnement d'Éphime quand il vit le cheval sauvage me suivre paisiblement et, penchant vers moi sa tête, saisir très délicatement entre ses lèvres mes cheveux ou mon épaule. Je me faisais de jour en jour plus audacieuse et entreprenante, et si l'on exceptait la colère de ma mère, rien au monde ne m'effrayait. Il me paraissait des plus extraordinaires que les autres enfants de mon âge craignissent de rester seuls dans l'obscurité, quand moi, au contraire, j'étais prête à m'aventurer au plus noir de la nuit, dans n'importe quel cimetière, forêt, maison abandonnée, caverne ou souterrain. Bien qu'on me racontât, comme aux autres enfants, les histoires d'esprits, de revenants, de génies des forêts, de brigands et de femmes oiseaux qui chatouillent les gens jusqu'à les faire périr, bien que je crusse de tout mon être à tout ce fatras de balivernes, je n'en concevais cependant aucune sorte de crainte. Au contraire, j'avais soif de ces dangers. J'eusse souhaité en être entouré, et je les eusse même recherchés si j'en avais eu la moindre liberté. Hélas, l'œil vigilant de ma mère suivait chacun de mes pas, chacun de mes gestes. Un jour, maman s'en fut promenée en compagnie de quelques dames dans un épais bois de résineux qui croissait de l'autre côté de la cama. Et elle m'emmena avec elle de manière, selon ses propres termes, que je ne me rompisse pas le cou en restant seule à la maison. C'était la première fois de ma vie qu'on me conduisait en pleine nature et j'y découvrais une forêt profonde, des champs immenses et une large rivière. C'est à peine si je n'étouffais pas de joie, et nous ne fûmes pas plutôt entrés dans le bois que, ne me sentant plus de ravissement, je me sauvais dans l'instant à toutes jambes et courus jusqu'à ce que les voix de la petite troupe fussent devenues inaudibles. Alors seulement ma joie fut entière et parfaite. Je gambadais, bondissais, cueillais des fleurs, grimpais tout en haut de grands arbres pour voir au loin, me hissais sur de frêles bouleaux et, m'agrippant à leur cime, sautais dans le vide en sorte que le jeune arbre me déposa délicatement à terre. 2 heures s'envolèrent comme si c'eût été 2 minutes. Entre-temps, on me cherchait. Plusieurs voix m'appelaient, mais j'avais beau les entendre, comment m'arracher à l'enchanteresse liberté ? Enfin, épuisé à l'extrême, je revins vers le groupe. Je n'eus guère de peine à les retrouver, car les voix qui m'appelaient ne se taisaient point un instant. Je trouvai ma mère et toutes les dames dans une inquiétude effroyable. Elles poussèrent un cri de joie en me voyant, mais maman, ayant deviné à mon visage satisfait que je ne m'étais point égarée mais éloignée volontairement, entra dans une violente colère. Elle me donna un coup dans le dos et me traita de maudite sale gosse qui avait juré de l'exaspérer toujours et partout. Nous arrivâmes à la maison, maman me conduisit depuis le hall jusqu'à sa chambre en me tirant par l'oreille. Elle me mena devant mon carreau à dentelle et m'ordonna de me mettre à l'ouvrage sans plus me redresser ni détourner la tête. « Voilà, bonne à rien, je vais t'attacher à une corde et je ne te nourrirai plus qu'au pain sec et à l'eau. » Puis sur ces mots, elle s'en fut narrée à mon père ma conduite monstrueuse, ainsi s'exprimait-elle, et quant à moi je restais à trier les fuseaux, ficher les épingles et rêver à la merveilleuse nature que je venais de découvrir pour la première fois, qui plus est, dans toute sa beauté et sa magnificence. De ce jour, la vigilance et la sévérité de ma mère eurent beau se faire plus assidues encore, elles furent désormais impuissantes à m'intimider et à me retenir. Du matin au soir, je restais assise à mon ouvrage, lequel, je dois l'avouer, ne connaissait rien au monde qui pût lui être comparé en disgrâce, car je ne pouvais, ne savais, ni ne voulais savoir l'exécuter comme les autres, mais déchirait, gâchait et emmêlait à loisir, tandis que devant moi se dressait une balle de toile sur laquelle un atroce embrouillamini s'étirait en une bande. C'était là ma dentelle, et c'est devant cela que je demeurais patiemment assise la journée entière. Patiemment, dis-je, parce que mon plan était désormais conçu et ma résolution prise. Sitôt que tombait la nuit, tout dans la maison s'apaisait, les portes se fermaient, la lumière s'éteignait dans la chambre de ma mère, je me levais, me vêtais sans bruit, me faufilais dehors par le perron de derrière et courais droit à l'écurie. Là, je prenais Alkide, le conduisais à travers le jardin jusqu'aux étables, et une fois en cet endroit, je l'enfourchais puis sortais par une étroite ruelle qui donnait droit sur la rive du fleuve et le mont Tsaretz. Je descendais alors à nouveau de cheval et lui faisais gravir la montagne en le menant par le licol, car ne sachant point comment lui passer la bride, je n'aurais pu le forcer à grimper de bon gré sur la hauteur qui, en cet endroit, présentait une pente raide et rocailleuse. Ainsi donc, je le menais par le licol, et une fois en terrain plat, je cherchais une souche d'arbre ou une butte du haut de laquelle je remontais sur son dos, puis je lui frappais de la main l'encolure et claquais de la langue jusqu'à ce que ce bon cheval se lançât au galop, puis au grand galop, et même au galop de carrière. Au premier signe de l'aube, je rentrais à la maison, ramenais le cheval à l'écurie et m'allais coucher sans même me dévêtir. Par la faute de quoi, mes promenades nocturnes finirent par être découvertes. La fille chargée de ma surveillance, me trouvant chaque matin dans mon lit vêtue de pied en cap, rapporta le fait à ma mère qui prit sur elle la peine d'épier de quelle manière et à quelle fin cela pouvait être. Ma mère me vit, de ses propres yeux, sortir à minuit, tout habillée, et, à son indicible effroi, tirer hors de l'écurie l'étalon sauvage. Elle n'osa pas m'arrêter, me prenant pour somnambule, elle n'osa pas crier de peur de m'effrayer, mais ayant donné l'ordre au majordome et à Éphime de me surveiller, elle alla trouver mon père, le réveilla et lui narra tout l'événement. Mon père ne fut pas peu surpris et se leva en hâte pour aller voir de ses yeux cette singularité. Mais tout s'était terminé plus tôt qu'on ne l'attendait. Déjà, on nous ramenait en triomphe, moi et Alkide, chacun à notre place. Le majordome, auquel maman avait ordonné de me suivre, voyant que je voulais grimper sur le dos du cheval, et ne jugeant pas, comme le croyait ma mère, que je fusse somnambule, était sorti de sa cachette et m'avait demandé « Où allez-vous, mademoiselle ?» Après cet événement, ma mère voulut à tout prix se débarrasser de ma présence et à cette fin, résolut de m'envoyer en Petite Russie, chez ma grand-mère, la vieille Alexandrovitcheva. J'allais déjà sur ma 14e année. J'étais grande de taille, fine et élancée, mais mon esprit guerrier se dessinait dans les traits de mon visage, et bien que j'eusse la peau blanche, les joues rouges vifs, les yeux brillants et les sourcils noirs, mon miroir et ma mère me répétaient chaque jour que je n'étais point jolie du tout. Ma figure avait été gâtée par la variole, les traits n'en étaient point réguliers, tandis que la constante privation de liberté, ainsi que la sévérité du comportement de ma mère à mon égard, quand ce n'était même pas sa brutalité, avait imprimé à ma physionomie une expression de crainte et de tristesse. Peut-être eussé-je oublié à la fin mes manières de hussard et fussé-je devenue une jeune fille ordinaire, comme toutes les autres, si ma mère n'avait point illustré à mes yeux le sort de la femme sous son jour le plus désolant. Elle parlait devant moi, dans les termes les plus navrants, du sort dévolu à ce sexe. La femme, d'après elle, devait naître, vivre et mourir en esclavage. Éternelle captivité, pesante servitude et privation de toutes sortes étaient son lot, du berceau à la tombe. Elle était pleine de faiblesses, privée de toute perfection et dénuée de tout talent. En un mot, la femme était la plus malheureuse, la plus insignifiante et la plus méprisable créature de la terre. Je sentais la tête me tourner à cette description. J'étais résolue, quand même ce devrait me coûter la vie, à me défaire d'un sexe qui se trouvait placé, selon moi, sous la malédiction divine. Mon père aussi disait souvent « Si au lieu de Nadejda j'avais un fils, je ne me soucierais guère de ce que serait ma vieillesse, il serait mon soutien au déclin de mes jours. » Je manquais fondre en larmes en entendant ces paroles de mon père que j'aimais follement. Deux sentiments aussi opposés, mon amour pour mon père et mon aversion pour mon propre sexe, troublaient mon jeune cœur avec une force égale, et c'est avec une constance et une fermeté d'âme peu communes à mon âge que je m'étais attelé à l'élaboration d'un plan qui me permit d'échapper à la sphère assignée à notre sexe par la nature et les coutumes.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child.
for today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child.
Vous êtes toujours sur la locale 97.3 à Saint-Giron et on reprend la lecture au moment où Alexandre Nadejda, après avoir passé à peu près 2 ans chez sa grand-mère en Ukraine, donc en petite Russie, est renvoyé chez ses parents parce qu'il y a une crise familiale, son père a trompé sa mère. Ma mère, ne trouvant plus d'agrément dans la société, menait à présent une vie recluse. Je profitais de cette circonstance et obtins de mon père la permission de monter à cheval. Mon père fit confectionner pour moi un checkmen de cosaque et me fit don de son alkide. De ce jour, je fus le compagnon obligé de mon père dans ses promenades aux environs de la ville. Il tirait plaisir à m'apprendre à monter avec élégance, à me tenir fermement en selle et à manier adroitement mon cheval. J'étais une élève compréhensive. Et mon père s'émerveillait de mon aisance, de mon adresse et de ma témérité. Il disait que j'étais l'image vivante de ses jeunes années et que j'eusse été le soutien de sa vieillesse et l'honneur de son nom si seulement j'étais né garçon. La tête finit par me tourner. Mais ce vertige-là n'était point fait à présent pour cesser. Je n'étais plus une enfant. Je venais d'avoir 16 ans. Les plaisirs et les séductions du monde, la vie en petite Russie et les yeux noirs de Kiryakov s'étaient effacés de ma mémoire comme un songe. Mais mon enfance, passée au camp, au milieu des hussards, se peignait à mon imagination sous les couleurs les plus vives. Tout se ranima dans mon âme. Je ne comprenais pas comment j'avais pu négliger mon projet pendant presque 2 ans. Ma mère, accablée de chagrin, peignait le sort des femmes sous des couleurs encore plus effroyables. Une ardeur guerrière embrasa mon âme avec une violence inouïe. Les rêves se multiplièrent dans mon esprit et je commençais activement de rechercher les moyens de mettre à exécution mes précédents desseins. Me faire soldat, être un fils pour mon père et me débarrasser à jamais d'un sexe dont le sort et l'éternelle servitude à présent m'épouvantaient. Ma mère n'avait pas encore fait le voyage à Perm pour se soigner quand un régiment de Cosaques arriva dans notre ville pour réprimer les brigandages et les meurtres perpétrés par les Tatars. Mon père conviait souvent chez lui à dîner leurs colonels et leurs officiers. Il les accompagnait dans de longues courses à cheval, aux environs de la ville, mais je prenais la précaution de ne jamais participer à ces promenades. J'avais besoin qu'ils ne me vissent jamais vêtu du checkmen et n'eussent point idée de mon allure en habit d'homme. Un rayon de lumière avait illuminé mon esprit quand les Cosaques étaient entrés dans la ville. Je voyais à présent un moyen sûr d'exécuter un plan depuis si longtemps résolu. Je voyais l'occasion, après le départ des Cosaques, de rejoindre avec eux l'endroit où étaient cantonnées les troupes régulières. Enfin sonna l'heure décisive d'agir selon le plan médité. Les Cosaques reçurent l'ordre de se retirer. Ils partirent le 15 septembre 1806. Il devait encore faire une halte d'une journée à 50 verstes de la ville. C'était le jour de mes 17 ans, et celui où le destin, à moins que ce ne fût le concours des circonstances ou un irrésistible penchant, arrêta que je quitterais la maison paternelle et entamerais une vie d'un genre entièrement nouveau. Le 17 septembre, je m'éveillais avant l'aurore et m'assis à la fenêtre pour attendre sa naissance. Peut-être serait-ce la dernière que je verrais en mon pays natal. Quel sort me réservait le monde tumultueux? Ne serais-je pas poursuivi par la malédiction de ma mère et le chagrin de mon père? Resterait-il en vie? Verrait-il le succès de ma gigantesque entreprise? Quelle horreur si leur mort venait à m'ôter la raison de mes actes! Ces pensées tantôt se pressaient dans ma tête, tantôt se succédaient l'une à l'autre. mon cœur se serrait et des larmes perlaient à mes paupières. Dans ce moment, l'aurore commença à poindre et bientôt répandit une lueur pourpre d'incendie. Sa lumière merveilleuse inonda ma chambre et en illumina les objets. Le sabre de mon père, pendu au mur en face de la fenêtre, paraissait embrasé. Mes sentiments se ranimèrent. Je décrochai le sabre, le tirai de son fourreau et, en le contemplant, m'abîmai dans mes pensées. Ce sabre m'avait servi de jouet quand j'étais encore dans les langes. Il avait été pour moi objet de consolation et instrument d'exercice durant mon adolescence. Pourquoi ne servirait-il pas à présent à ma défense et à ma gloire dans la carrière militaire ? « Je saurais te porter en te faisant honneur, dis-je, en baisant la lame et en l'arrangeant dans sa gaine. » Le soleil se leva. Ce jour-là, ma mère m'offrit une chaîne d'or, mon père 300 roubles et une selle de hussard avec une chabraque écarlate. Même mon jeune frère me fit cadeau de sa montre en or. En recevant ces présents des mains de mes parents, je pensais avec tristesse qu'il ne leur venait point à l'esprit qu'ils étaient en train de m'équiper pour un lointain et périlleux voyage. Je passai cette journée en compagnie de mes camarades. À 11 heures du soir, je vins prendre congé de ma mère, comme j'avais coutume de le faire quand je m'allais coucher. Impuissante à contenir mes sentiments, je baisai plusieurs fois ses mains et les serrai sur mon cœur, chose que je n'avais jamais faite, ni osé faire auparavant. Bien que ma mère ne m'aimât point, elle fut touchée par ces démonstrations de tendresse et de soumission filiale et me dit en baisant mon front « Que Dieu t'accompagne ». Ces mots signifiaient beaucoup pour moi, qui jamais encore n'avais entendu de ma mère une seule parole caressante. Je les pris comme une bénédiction, baisai une dernière fois sa main, puis me retirai. Mes appartements étaient à l'écart de la maison. J'occupais l'étage inférieur du pavillon de jardin, tandis que mon père vivait au-dessus. Il avait l'habitude de me rendre visite chaque soir pendant une demi-heure. Il aimait m'écouter lui raconter où j'avais été, ce que j'avais fait ou lu. En attendant cette fois encore la visite ordinaire de mon père, j'étendis mon habit de cosaque sur le lit, derrière le rideau, poussai un fauteuil devant le poêle et demeurai debout auprès, à guetter le moment où mon père regagnerait ses appartements. J'entendis bientôt un froissement de feuilles et des pas dans l'allée. Mon cœur fit un bond. La porte s'ouvrit et mon père entra. « Pourquoi es-tu si pâle ? » me demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil. « Es-tu souffrante ?» Je retins à grand-peine le soupir qui menaçait de me déchirer la poitrine. C'était la dernière fois que mon père pénétrait dans ma chambre, avec l'assurance d'y trouver sa fille. Demain, il passerait devant ma porte avec un tressaillement de chagrin. Il n'y aurait plus en ces lieux qu'un vide et un silence de tombe. Mon père me fixa avec insistance. « Qu'as-tu ? Es-tu bien sûre de n'être pas malade ?» Je répondis que j'étais seulement fatiguée et que j'avais froid. « Pourquoi ne fais-tu pas chauffer ta chambre ? Il commence à faire frais et humide. » Puis, après un silence, mon père me demanda « Pourquoi ne dis-tu pas à Éphime de manier Alkide à la longe ? Il n'est pas moyen de l'approcher, toi-même ne l'as plus monté depuis longtemps, et tu n'en donnes à personne d'autre la permission. Il est si fatigué de l'écurie qu'il se cabre dans sa stalle. Il faut absolument le faire courir un peu. » Je répondis que j'en donnerai l'ordre, puis me tue à nouveau. « Tu n'es guère en train, mon ami. Adieu, mets-toi au lit à présent, » dit mon père en se levant et m'embrassant sur le front. Il m'enlaça d'un seul bras et me serra contre sa poitrine. Je baisai ses deux mains en m'efforçant de retenir les larmes prêtes à couler à torrents de mes yeux. Un frissonnement de tout mon corps trahit le vrai sentiment de mon cœur. Hélas, mon père l'attribua à la fraîcheur de l'air. « Tu vois comme tu es gelé, » me dit-il. Je baisai encore une fois ses mains. « Bonne fille !» souffla mon père en me tapotant la joue. Puis il sortit. Je me mis à genoux près du fauteuil dans lequel il s'était assis et m'inclinant jusqu'à terre, je baisai en l'inondant de larmes l'endroit où ses pieds s'étaient posés. Une demi-heure plus tard, quand mon chagrin se fut un peu apaisé, je me relevai pour quitter mes vêtements de femme. Je m'approchai du miroir, coupai mes cheveux, les cachai dans un tiroir de la table, ôtai ma robe de chambre de satin noir et commençai à me vêtir en uniforme cosaque. Après m'être serré la taille dans une ceinture de soie noire et m'être coiffé d'une haute toque à sommet rouge ponceau, j'examinais durant un bon quart d'heure ma figure métamorphosée. Je fus certaine qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de soupçonner mon sexe. Un fort bruissement de feuilles et l'ébrouement d'un cheval me firent savoir qu'Ephim conduisait Alkide dans la cour de derrière. Je tendis une dernière fois mes mains vers l'image de la Vierge qui, pendant tant d'années, avait écouté mes prières. Puis je sortis. Enfin, la porte de la maison paternelle se referma sur mes pas et qui sait, peut-être ne devais-je plus jamais la voir s'ouvrir devant moi. Ayant donné l'ordre à Ephim d'aller en droite ligne avec Alkide sur le mont Tsaretz et de m'attendre dans les bois, je dévalai en courant la berge de la Kama, m'y débarrassai de ma robe et l'étendis sur le sable avec toutes mes affaires de toilette. Je n'avais pas la barbare intention de faire croire à mon père que je m'étais noyée et j'étais certaine qu'il ne le penserait pas. Je désirais juste lui fournir le moyen de répondre sans embarras aux questions gênantes de nos amis peu clairvoyants. J'abandonnai donc mes vêtements sur la berge, puis gravis la hauteur en prenant au plus court par un sentier qu'avaient tracé les chèvres. La nuit était froide et claire, la lune brillait dans toute sa plénitude. Je fis halte pour jeter encore une fois un regard sur le paysage majestueux et sublime qu'on découvrait du haut de la montagne, au-delà de la Kama, à perte de vue. S'étendaient les gouvernements de Perm et d'Orenbourg. Les masses noires des vastes forêts et les miroirs des lacs se dessinaient comme sur un tableau. La ville, au pied de la falaise, sommeillait dans le silence de minuit. Les rayons de la lune jouaient à se refléter sur les dômes dorés de la cathédrale et éclairaient le toit de la maison où j'avais grandi. Que pensait à présent mon père ? Son cœur lui soufflait-il que demain sa fille aimée ne viendrait point lui souhaiter le bonjour ? Dans le silence nocturne, la voix d'Ephim et le souffle bruyant d'Alkide parvinrent distinctement à mon oreille. Je courus à eux, et juste à temps. Ephim grelottait de froid, il jurait contre Alkide, dont il ne pouvait venir à bout, et contre moi et ma lenteur. Je pris les rênes de ses mains, me mis en selle, lui donnai les 50 roubles promis, et lui recommandai de ne rien dire à mon père, puis je lâchai la bride à Alkide, et disparus dans l'instant, sous les yeux d'Ephim ébahi. Alkide galopa durant 4 verstes à un train identique, mais cette nuit-là, c'en était 50 qu'il me fallait couvrir pour atteindre le village où je savais que le régiment cosaque devait faire étape. Aussi, réfrénant l'allure rapide de mon cheval, je le mis au pas. Et bientôt j'entrai dans une sombre forêt de pins qui s'étendait sur une trentaine de verstes. Souhaitant ménager les forces de mon Alkide, je continuai d'avancer au pas et, entouré par le silence de mort de la forêt, et l'obscurité de la nuit d'automne, je me laissais absorber par mes pensées. Ainsi, j'étais libre, libre, indépendante. J'avais pris ce qui m'appartenait, ma liberté. Ma liberté, ce don précieux du ciel, qui est le bien imprescriptible de chaque être humain. J'avais su la gagner et la mettre pour un temps à l'abri contre toute prétention, et de ce jour jusqu'à la tombe, elle devait être mon privilège et ma récompense. Les nuées recouvrirent tout le ciel. La forêt devint si noire que je ne pouvais rien voir à 3 sagènes devant moi. Puis, enfin, un vent glacé se leva du nord, qui me força à presser l'allure. Mon Alkide se mit au grand trot et à la pointe du jour, je parvins au village où campait le régiment des Cosaques. Le colonel et ses officiers étaient depuis longtemps réveillés et s'étaient tous rassemblés dans les quartiers du colonel pour déjeuner. C'est dans ce moment-là que je suis entré. Ils étaient occupés à converser bruyamment, mais quand ils me virent, ils firent silence sur le champ. Le colonel s'approcha de moi avec un air de stupéfaction. « De quel escadron es-tu ? » me demanda-t-il vivement. Je répondis que je n'avais pas encore l'honneur d'appartenir à aucun d'eux, mais que j'étais ici présent pour lui demander cette grâce. Le colonel m'écoutait avec étonnement. « Je ne te comprends pas. Tu n'es vraiment incorporé nulle part ? » ?»« Nulle part. Pourquoi ? Je n'en ai pas le droit. » Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Un cosaque n'aurait pas le droit d'être incorporé dans un régiment cosaque ? Quelle est cette absurdité ? Je lui déclarai que je n'étais pas cosaque. « Alors, qui donc es-tu ? » demanda le colonel qui commençait à perdre patience. « Pourquoi portes-tu l'uniforme cosaque et que veux-tu ? » « Je vous l'ai déjà dit, mon colonel. Je souhaite avoir l'honneur d'être compté dans votre régiment, ne serait-ce que le temps de rejoindre les troupes régulières. » « Mais je dois tout de même apprendre qui tu es, jeune homme. Qui plus est ? Ne sais-tu pas que personne n'est autorisé à servir chez nous en dehors des Cosaques de souche ? Et je n'ai point cette intention. Je vous demande seulement la permission de rallier les troupes régulières avec le rang et l'uniforme de Cosaque, à votre service ou dans votre régiment, quant à votre question concernant mon identité. je ne vous dirai que ce que je puis en dire. Je suis gentilhomme, j'ai quitté la maison paternelle et suis en route pour m'engager dans l'armée à l'insu de mes parents et contre leur volonté. Je ne puis être heureux dans aucun autre état que celui de soldat, et c'est pourquoi j'ai résolu en cette occasion d'agir selon mon gré. Si vous ne me prenez pas sous votre protection, je trouverai un moyen de rallier seul notre armée. » Le colonel me regardait avec compassion tandis que je parlais. « Que dois-je faire ? » dit-il à mi-voix, en s'adressant à un Essaoul déjà chenu. C'est un capitaine. « Je n'ai pas cœur de lui refuser. »« Et pourquoi refuser ? » répondit l'Essaoul avec indifférence. « Il peut bien venir avec nous. »« Il ne faudrait pas que cela nous attire des ennuis. »« Et lesquels ? » ?»« Au contraire, son père et sa mère vous seront reconnaissants par la suite de lui avoir donné asile. » Avec son esprit décidé et son manque d'expérience, il tombera dans le malheur si vous le renvoyez. Tout le temps de ce bref entretien entre les Saoul et le colonel, je restais debout, appuyé sur mon sabre, fermement résolu, au cas où j'essuierais un refus, à renfourcher mon enfant des montagnes et à m'en aller seul vers le but que je m'étais fixé. « Fort bien, jeune homme, » dit le colonel en se tournant vers moi. « Viens avec nous. Mais je te préviens que nous marchons à présent vers le Don et qu'il ne se trouve pas là-bas de troupes régulières. » Chez Groff, donne-lui un cheval de la réserve. » Un cosaque de haute taille, l'ordonnance du colonel, se disposait à aller exécuter l'ordre reçu, mais moi, pressé d'user du pouvoir de jouer le rôle de soldat subordonné, je déclarai « J'ai un cheval, votre noblesse. Je le monterai si vous le permettez. » Le colonel partit d'un grand rire. « C'est d'autant mieux, c'est d'autant mieux. Monte donc ton cheval. Quel est ton nom, jeune brave ?» Je lui répondis que je m'appelais Alexandre. « Et ton patronyme ?» On nommait mon père Vassili. Eh bien, Alexandre Vassilievitch, quand on sera en campagne, tu marcheras toujours avec le premier escadron, tu déjeuneras et tu logeras avec moi. Va-t'en rejoindre à présent le régiment, nous allons nous mettre en route dans un instant. » Officier de jour donnait l'ordre de monter en selle. Ne me sentant plus de joie, je courus à mon alkide et volai sur la selle comme un oiseau. Le fringant animal paraissait comprendre mon enthousiasme. Il marchait fièrement, arrondissant le col et remuant vivement les oreilles. Les officiers cosaques admiraient la beauté de mon alkide en même temps qu'ils faisaient mon éloge. Ils disaient que je montais excellemment et que j'avais une taille splendide de tcherkesse. Je commençais déjà à rougir et à me troubler sous les regards curieux qu'on fixait sur moi de tous côtés, mais pareille situation ne pouvait se prolonger. Bientôt je me ressaisis et répondis aux questions d'une voix ferme et tranquille, d'une manière à la fois courtoise et vraisemblable. Et je semblais ne point remarquer du tout la curiosité générale ni les commentaires que suscitait mon apparition au milieu de l'armée du Don. Enfin rassasiés de parler et de nous contempler, mon cheval et moi, les Cosaques se répartirent à leur place. Le colonel sortit, grimpa sur son cheval tcherkesse, commanda « À droite, par trois !» Et le régiment se mit en marche. Le détachement de tête, composé à dessein d'hommes possédant une belle voix, entonna « Doucha, mon beau cheval », la chanson favorite des Cosaques. Son air mélancolique me plongea dans un état rêveur. Quelques heures plus tôt, j'étais encore à la maison, dans les vêtements appartenant à mon sexe, entouré de mes amis, aimé par mon père, respecté par tous comme la fille du gouverneur de la ville. À présent, j'étais un cosaque, en uniforme, armé d'un sabre. La lourde pique fatiguait mon bras, qui n'avait point encore acquis sa pleine force. Au lieu de mes amis, des cosaques m'entouraient, dont le langage, les plaisanteries, la voix et les rires grossiers me troublaient. Un sentiment pareil à un désir de pleurer serra ma poitrine. Je me penchai sur le cou vigoureux de ma bête, l'étreignis et y pressai mon visage. Ce cheval était un présent de mon père. Lui seul me restait en souvenir des jours passés dans sa demeure. Enfin, le combat que se livraient mes sentiments s'apaisa, je m'assis à nouveau bien droite et, occupé à contempler le triste paysage d'automne, je jurai en mon âme de ne jamais plus permettre au souvenir d'affaiblir mon cœur, mais de marcher avec constance et fermeté sur la voie que j'avais choisie de mon propre gré. C'est la fin de cette émission. C'était donc le récit Cavalière du Tsar par Nadejda Dourova ou Alexandre Alexandrov. Et vous pouvez m'écrire, m'envoyer vos commentaires, critiques, etc. à lafilleàlafenêtre@laposte.net. Et on se retrouve dans un mois, soit pour un direct ou une rediffusion sur la locale 97.3 à Saint-Girons. Et je ne vous présente pas la dernière chanson, vous allez bien voir ce que c'est, que ceux qui aiment apprécient et ceux qui n'aiment pas écoutent les paroles. Je vous souhaite une très bonne soirée.